Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 12h30 sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Salut à vous, bonjour à vous, c'est l'été. On aime vous causer dans l'oreille et vous raconter mille histoires, mille secrets, mille destins. Passionnant, vous allez bien Thomas ?
Oui, je suis en pleine forme. Salut Sidonie, bienvenue à vous. Les curieux, ce matin, tiens, on va faire un bout de chemin avec un homme incroyable. Écoutez bien, il s'est lancé dans un tour du monde à la marche depuis 6 ans. Alors non, c'est pas attention à la marche, l'émission de TF1.
Il y a des marches forcément, hein, sur son parcours.
Il marche, vous voyez, il marche et pour lui, c'est presque un art marcher. Il nous racontera pourquoi.
Et comme tous les jours en fin d'émission, on retrouve Stéphane Bern qui va répondre à sa question de l'histoire. Aujourd'hui, pourquoi on peut dire que l'histoire de Dracula n'est pas une légende ?
Allez, tout de suite, on partage nos jardins.
C'est un jardin extraordinaire.
Alors moi, je suis jardinier ici, hein, et je me ferai un plaisir de montrer mon jardin.
Ah, bien sûr.
Voilà, il y a des légumes pour pratiquement toujours.
Il y a des canards qui parlent anglais.
On a appris que ça existait, le principe des jardins ouvriers. Et la curiosité aidant, on va quand même aller voir comment ça fonctionne, ce truc-là.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Jardins ouvriers, collectifs, communautaires, familiaux, partagés, que d'adjectifs. On vous raconte l'histoire de ces lopins de terre, petits coins de nature dans la ville, qui nourrissent et rassemblent des hommes et des femmes depuis plus de 120 ans. Pierre Guyot, vous êtes un ancien d'RTL, vous êtes journaliste, producteur et le réalisateur de ce documentaire 100 ans de chlorophylle. Alors je l'ai dit, jardins ouvriers, collectifs, familiaux, partagés, il y a plein de mots qui recouvrent pas forcément une même réalité.
Ils ont en commun tous ces jardins-là d'être effectivement des jardins collectifs. Ce ne sont pas des lieux individuels, ce ne sont pas jamais des propriétés. Les gens ne possèdent pas ces jardins, ne sont pas propriétaires. Mais il y a deux grandes catégories, on va dire, de jardins collectifs en France aujourd'hui. Il y a les plus anciens, qui sont les jardins ouvriers, et je vous expliquerai un peu à quoi ça correspond. On a son lopin de terre qu'on cultive, et puis les plus récents, on les appelle aussi les jardins ouvriers, les jardins familiaux maintenant. Et puis les plus récents qu'on appelle les jardins partagés, où là on est dans une logique vraiment communautaire, où on n'a pas forcément son espace à soi, mais qui est un jardin qu'on partage avec généralement des voisins du quartier et qu'on entretient et dans lequel on vit ensemble.
Ils sont nombreux ces jardins partagés aujourd'hui en France ?
Alors les jardins partagés, il y en a plusieurs milliers. Je vais faire une réponse qui est volontairement un peu floue parce que j'ai pas le chiffre exact. Ça va à une vitesse absolument folle en ce moment. On est sur une
espèce, la mode.
Plus que de mode, je crois. Ouais. On est sur une vraie tendance.
Ça passera pas, quoi.
Voilà, ouais. J'espère en tout cas. On est à 65 000 parcelles aujourd'hui sur le territoire
français. C'est forcément en ville ?
Les jardins partagés, oui, le plus souvent. Comme on est quand même sur du lien social, on a tendance à installer ça dans les centres-villes ou proches des centres-villes. Les jardins ouvriers, c'est beaucoup plus varié. Il y en a en centre-ville, et ça, c'est récent. On est sur la tendance écolo, etc. On commence à en ramener. Généralement, les jardins ouvriers, ils sont en périphérie. Ils sont là où il y avait des ouvriers. Il n'y a plus beaucoup d'ouvriers aujourd'hui, c'est-à-dire dans les périphéries. Et puis, dans toutes ces espèces d'interzones pas vraiment occupées, les talus de chemin de fer, les coins de banlieue, à la fin du 19e, le long des fortifs, comme on disait, c'est-à-dire le long des fortifications, ce qu'on appelait la zone à l'époque. Donc, il y en a un peu partout. Et puis, on en a également aussi à la campagne.
Vous dites, Pierre Guyot, que c'est une tendance, que c'est en rapide augmentation. Comment ça s'explique ? Par exemple, la crise, les difficultés économiques, est-ce que ça peut être une raison pour laquelle on se dit « tiens, je vais faire un jardin partagé ».
Alors, pour les jardins partagés où on cultive de quoi se nourrir, il y a des fruits et légumes, et ils sont assez peu nombreux ceux-là, oui. Pour les jardins ouvriers où on cultive des fruits et des légumes, la réponse est deux fois oui. C'est une fédération, celle des jardins ouvriers, on parle de la Ligue du coin de terre et du foyer, qui existe depuis un siècle, et c'est une évolution qui est très cyclique. C'est-à-dire que grosso modo, quand économiquement ça va bien, les jardins n'étaient pas très en forme. Ouais. Et puis au contraire, quand on était en période de crise économique, il y avait un boom des jardins, donc c'est pas toujours une très bonne nouvelle de voir que les jardins sont dans l'essor. Et on est en crise économique aujourd'hui. Ouais. Et les gens de la Fédération des jardins familiaux expliquent qu'ils reçoivent des quantités phénoménales de lettres, parfois assez poignantes, j'en ai lu quelques-unes, avec des gens qui expliquent qu'ils ont 2, 3, 4 gosses et qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois et qu'ils ont besoin d'un jardin. Alors le jardin n'est pas la solution, mais c'est une des solutions ou une des pièces du puzzle pour essayer d'améliorer le quotidien.
Donc ça, c'est une raison importante, mais qu'on peut qualifier de conjoncturelle. On espère que la crise va s'arrêter. Et puis, il y en a une autre, vous l'avez évoqué rapidement, peut-être le développement durable, le souci écolo. Est-ce que c'est l'une des raisons du succès ?
C'est évidemment aussi une des raisons, cette prise de conscience. Et là, on est plus sur une démarche militante. Je ne vais pas prendre le mot politique, mais le fait de vouloir des jardins en ville. Et puis, ce qui va avec, c'est-à-dire pas n'importe quel jardin, des jardins où on respecte l'environnement, l'environnement, c'est-à-dire on bombarde pas.
On fait du bio.
Bah, voilà, on va employer le terme de bio, mais ou développement durable, ou toute la terminologie ou les techniques de jardinage qui existent autour de ça, mais effectivement propre. Grosso modo, on bombarde pas de produits chimiques. Et puis aussi d'autres motivations qui sont liées à ça, qui sont pas forcément très éloignées, qui sont le vivre ensemble, qui sont les jardins partagés. Ce sont pas que des lieux de jardinage, c'est des lieux de vie, c'est des lieux de fête. Il y en a certains qui sont assez thématiques et qui sont plus des lieux où on se réunit pour discuter, que les gosses jouent, que pour cultiver réellement. Quoi.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous nous avez expliqué, Pierre Guillaume, que ces jardins n'appartiennent à personne. Mm-hmm. Donc c'est vrai, ça n'appartient à personne, à la municipalité.
Voilà, ça. Généralement, ce sont des terrains publics, c'est ça.
D'accord, mais ce sont des particuliers qui viennent. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut se greffer, une famille peut se greffer, elle arrive dans un quartier, un jardin partagé et venir boire un coup, faire jouer les enfants, ça se passe comme ça, un jardin partagé ?
C'est exactement le principe. Alors, les jardins partagés fonctionnent sous forme d'association, donc il y a des règlements qui varient évidemment d'une association à l'autre.
Donc il faut se faire accepter quand même.
Le principe, c'est de faire du collectif, donc à moins d'arriver comme un sagouin, de ne pas respecter les règles, de tout saloper dans le jardin, de je ne sais pas quoi, généralement les gens sont là pour vous accueillir.
Comment sont nés ces jardins partagés ? L'idée d'un patron ou l'idée d'un abbé. Restez avec nous les curieux.
Tout l'été, la curiosité, c'est de 11h à 12h30 sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec, les curieux sont sur RTL cet été.
Les jardins ouvriers, les jardins partagés font partie à la fois du patrimoine français et d'une tendance. C'est plus qu'une mode, ça marche très très bien. On peut à peine les compter, il y a 65 000 jardins ouvriers et sans doute des dizaines de milliers de jardins supplémentaires. Comment sont-ils nés? C'est ce qu'on vous raconte avec le réalisateur et journaliste Pierre Guyot. Donc c'est une idée qui vient d'où? Est-ce que c'est une idée, Sidonie, l'idée d'un patron ou d'un abbé? On commence par un patron. Est-ce que ça vient d'un patron?
Alors, ça vient en réaction à ce qui se faisait à ce que le patronat, les patrons faisaient au moment de la révolution industrielle au 19e. Ils avaient un souci, on était loin de la situation actuelle, ils avaient un souci qui était celui de retenir la main-d'œuvre, et notamment la main-d'œuvre qualifiée.
Il n'y avait pas de chômage, donc tout le monde pouvait quitter son job.
Les ouvriers spécialisés, notamment les ouvriers hautement qualifiés, étaient une denrée très recherchée dans le grosso modo 1860 jusqu'à 1880, la période où la révolution industrielle démarre à plein tube. Un des moyens qu'un certain nombre de patrons trouvent pour essayer de sédentariser, de garder leurs salariés, c'est de leur offrir ou de leur confier un lopin de terre dont l'ouvrier peut jouir. Et puis assez vite, il y a une critique vis-à-vis de ça, où on trouve que c'est une mainmise du patronat sur la vie privée des ouvriers qui est pas très agréable. Et effectivement, un abbé réagit à ça et invente les jardins ouvriers. Le principe est exactement le même, sauf que le jardin, le lopin de terre, au lieu d'appartenir au patron de l'ouvrier, il appartient à des pouvoirs publics, il est géré par une fondation, et d'un seul coup, les ouvriers peuvent avoir accès à des lopins de terre, pour des motivations diverses et variées de la part de cet abbé, mais qui ne dépendent plus d'une entreprise ou d'un patron ou d'une usine.
L'abbé Jules Lémire, un sacré bonhomme que vous présentez ainsi dans votre documentaire, Pierre Guillot.
C'est ici, à Hazebrouck, une petite ville des Flandres, que commence à la fin du 19e siècle l'épopée des jardins ouvriers, sous l'impulsion d'un homme, l'abbé Jules-Auguste Lemire. Personnage au destin incroyable, cet homme d'église a toujours été l'infatigable promoteur de son idée de jardin ouvrier. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, où il fut élu et réélu député pendant plus de 30 ans, ou dans sa ville d'Hazebrouck, dont il fut le maire, et à laquelle il a été fidèle toute sa vie.
Alors Pierre Guyot, on l'a compris, l'idée c'est de protéger en quelque sorte les ouvriers, de quoi, de les ramener à une vie plus saine aussi. Est-ce qu'il y a cette idée? Parce que la théorie hygiéniste, c'est l'époque, c'est
ça? On est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Il y a un toubib, un médecin qui s'appelle le docteur Lancry, qui a lancé la théorie de l'hygiénisme pour faire simple, combattre les vicissitudes de la vie en ville par la vie saine à la campagne. On est sur toute une tendance, y compris le littéraire que je suis, de Zola, de Balzac encore plus, avec le médecin de campagne. Voilà, c'est la campagne et la nature qui permet de vivre mieux, voire même d'être rédemptrice. Et il y a évidemment de ça dans l'idée de cet abbé Jules Lemire, protéger l'ouvrier des vicissitudes de la ville, mais également des vicissitudes de l'alcool. Cet abbé vit à Hazebrouck, qui est une ville des Flandres, et dans la rue principale de la ville, vous avez d'un côté les filatures et les usines, et de l'autre côté les cabarets. Juste en face, et c'est dans les cabarets que tous les 15 jours est versée la paye des ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers traversent la rue et pour toucher leur paye en liquide, ils vont au cabaret.
Donc boire sa paye, c'est ça l'expression?
Évidemment, la tentation elle est grande après 12 heures de boulot de laisser une bonne partie du salaire dans le cabaret. Et l'abbé Lemire veut lutter contre ça, il veut lutter contre ce phénomène de l'alcoolisme. Il va trouver également un soutien assez rapide de la part des patrons indirectement, en tout cas des propriétaires fonciers, parce qu'il va y avoir des dons, on va lui confier des terrains, parce que c'est un homme politique, donc il a ce poids-là, il obtient ça. Et les patrons, eux, ils voient un gros avantage à ce que l'ouvrier fréquente moins les cabarets au 19e, c'est qu'au cabaret, on devient alcoolique, mais peut-être encore pire, on devient socialiste.
Le fléau.
Bah voilà, étant donné que c'est là que se passent les harangues, la plupart des meetings, on est dans le mythe de la création de l'internationale socialiste. Il y a toute une série de patrons qui n'ont pas du tout envie de voir leurs employés, leurs ouvriers plonger là-dedans, et on préfère les voir biner au jardin plutôt que d'aller devenir socialiste et de boire un coup au cabaret.
Alors c'est pour ça que l'abbé Lemire va créer, vous l'avez cité tout à l'heure, la Ligue du coin de terre et du foyer. C'est rassembler aussi la famille, protéger la famille, tisser plus de liens avec la famille.
On est dans une logique, pour le coup, de démocratie chrétienne, hein, qui n'est pas encore inventée à l'époque, mais on est vraiment dans ces idées-là. Le jardin sert à rassembler la famille, va d'ailleurs devenir un lieu de vie. Il y a évidemment les ouvriers qui vont y travailler, mais le dimanche, on y emmène les enfants, le petit dernier, les gosses y jouent, les épouses sont là. Il y a toute une vie sociale, d'ailleurs, qui va se développer dans ces jardins un peu spécifiques, avec en parallèle l'autre grand objectif, mais ça, il est important, de l'abbé Lemire, parce que c'était un homme spirituel, mais qui avait aussi les deux pieds sur terre, qui était que le jardin permettait d'améliorer l'ordinaire et de donner à manger. Voilà, c'était un élément important qui reste important. On évoquait la crise économique tout à l'heure.
Vous l'avez dit tout à l'heure, ça démarre dans le Nord. Tout ce qu'on est en train de raconter, c'est d'abord le Nord, le point de départ. Est-ce que ça essaime assez vite dans
oui,
toute la France?
Il s'avère que ça se crée à Hazebrouck, donc dans les Flandres, dans le Nord. On a en même temps toute une série, à peu de choses près, à quelques années près, hein, des expériences en Belgique, en Allemagne, etc. Ça essaime assez rapidement, d'abord parce que c'est dans l'air du temps, et puis parce qu'on a la particularité d'être en face d'un homme de caractère. Voilà, c'est un abbé qui manifestement était un type qui avait une sacrée personnalité, et qui est un homme d'église élu à l'Assemblée nationale. C'est arrivé très très peu. Oui. Dans l'histoire de nos républiques, on est sous la troisième à l'époque, on a un abbé qui devient député et qui trouve là une tribune, pour le coup celle de l'Assemblée, formidable pour ses jardins. Et du coup, ça trouve un écho tout à fait important et ça se développe jusqu'à la Première Guerre mondiale, où là, il se passe un truc tout à fait étonnant, c'est qu'on a besoin de ravitaillement. Et là, les pouvoirs publics subventionnent pour récupérer des légumes parce qu'il faut alimenter les populations, voire même alimenter le front. Et c'est le premier boom des jardins ouvriers provoqué, hélas, par ce qu'on a appelé la der des der, en espérant que ce sera la dernière. Et l'histoire a montré qu'on était capable de faire bien pire après.
Et ben, vous nous offrez la parfaite transition, Pierre Guyot. En effet, on va parler du rôle de ces jardins partagés pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et le reste de cette belle histoire.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec, les curieux sont sur RTL cet été.
Vous écoutez RTL.
Donnez-nous les jardins.
Installés au pied des usines ou sur les bas-côtés des voies de chemin de fer, les jardins ouvriers appartiennent à notre mémoire collective.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain.
À leur apogée, la France a compté jusqu'à 250 000 de ces jardins.
RTL.
De nos jours, ce sont encore des centaines de milliers de personnes qui en France fréquentent ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les jardins familiaux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quelle est l'histoire passionnante de ces jardins partagés, de ces jardins ouvriers? C'est le récit de notre invité, le journaliste, producteur et réalisateur Pierre Guyot. 100 ans de chlorophylle, quel joli titre! Ces jardins familiaux, on a commencé à raconter l'histoire. Ils sont créés, instaurés par un abbé, l'abbé Jules Lemire, pour le bien-être de la famille, des ouvriers, pour les nourrir aussi, évidemment. Et ces jardins vont jouer un rôle fondamental, vous avez commencé à nous le raconter, pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont un rôle nourricier.
On manque de nourriture, on manque également de main-d'œuvre et de bras dans les champs, parce que les hommes sont dans les tranchées, hélas. Et du coup, un des moyens de, non pas compenser, mais essayer de rattraper un peu ce décalage, consiste à faire la promotion des jardins ouvriers. Et donc, les pouvoirs publics, et notamment le ministère de l'Agriculture, fournit à la Ligue du foyer, du coin de terre du foyer des subventions pour inciter les Français. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on est à 47 000, je crois, parcelles de jardins ouvriers. Donc, en l'espace de 20 ans, on a plusieurs dizaines de milliers de jardins qui sont créés. Les jardins ouvriers qui étaient jusqu'à la Première Guerre mondiale fortement sous l'emprise de l'Église, souvent les prêtres s'occupaient de ça, vont se laïciser entre guillemets, sont les notables qui vont prendre ça en main et qui vont diriger les associations. On a tous les sorts aussi, alors ça on le sait moins dans l'entre-deux-guerres, des techniques de jardinage moderne. On est très amateur aujourd'hui de bio. À l'époque, dans l'entre-deux-guerres, on était très amateur de jardinage à grands coups de produits chimiques. C'était très nouveau. De jardinage intensif, donc on balançait des quantités effarantes de saleté sur les légumes, mais ça fonctionnait.
Et aussi puis, dans les jardins partagés.
Oui, j'en ai oublié, oui, bien sûr, ouais. Là comme ailleurs. Et puis, on a toute une vie sociale qui va se développer dans ces jardins, et ça, c'est assez rigolo. Il y a des cours et des conférences donc, sur comment on jardine, il y a des cours et des conférences sur comment on cuisine les légumes. On va éduquer, entre guillemets, les mères de famille, puisque c'est encore les femmes qui sont à la cuisine dans l'esprit des gens à l'époque. Et puis, on va avoir également toute une série de fêtes, de cérémonies. Il y a parfois des mariages, mais ce sont des élections de Miss Jardin. Il y a des trucs de théâtre, de danse. Il ne faut pas oublier que les gens qui fréquentent les jardins sont des ouvriers ou des tout petits employés. Et le jardin devient le moyen de se hisser, entre guillemets, à la hauteur du donateur. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours cette tension dans les jardins ouvriers.
C'est qui le donateur?
À l'époque, les donateurs sont les bourgeois qui donnent de l'argent ou qui donnent des terrains pour ces jardins et qui régulièrement visitent. Je ne vais pas prendre de comparaison malheureuse, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu spectacle. On vient voir le résultat des bonnes œuvres. Et en face de ça, il y a, et c'est en ça que l'impulsion de l'abbé Lemire est importante dans l'esprit, il y a le fait que par le travail, parce qu'on produit réellement, on produit des fleurs, on produit des légumes, on produit des fruits, parce qu'on est utile et qu'on bosse, on s'élève au niveau de son donateur et on rétablit une espèce d'équilibre, on va dire.
Pierre Guyot, vous nous disiez tout à l'heure que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une accélération de la création des jardins ouvriers en France. On imagine que le phénomène a été un peu similaire, les mêmes causes produisant les mêmes effets, pendant la Seconde Guerre mondiale. On en parle même pendant les journaux d'actualité sous l'occupation. Écoutez.
Ton jardin cultivera, ton ordinaire améliorera. Tel est le commandement adapté aux difficultés de l'heure. Partout, la banlieue parisienne a vu naître et croître de nombreux potagers, cultivés chaque dimanche avec amour et gourmandise. Après avoir biné et sarclé durant tout son repos dominical, le Parisien, le dos moulu mais content, rêvera à quelques pantagruéliques récoltes.
Pierre Guyot, on bine le jeudi, c'est ça à l'époque. C'est le jeudi, pardon, c'est marrant que je dis ça. Oui. Le jeudi, c'était le jour off. Oui. Non, ouais, non, le dimanche. Quel anachronisme.
C'est drôle.
On bine, alors donc, on bine le dimanche.
Vous êtes trop jeune pour avoir connu le jeudi off, non?
Bon, c'est ma grand-mère qui m'a
dit. Ah, oui, c'est ça.
Ouais. Avec Zorro l'après-midi à la télévision en noir et blanc. On bine effectivement le dimanche, sauf que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a un phénomène de productivisme. C'est-à-dire que jusque dans les années 40, on va au jardin, à la fois pour produire des fruits et des légumes, mais également pour la vie sociale, pour le bien-être. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça devient carrément des champs. Et c'est clair qu'on y va pour produire parce qu'il faut manger. Avec des jardins qui sont d'ailleurs tout à fait à l'image de la société française pendant cette période de l'occupation allemande. C'est-à-dire que ce qu'on vient d'entendre là, c'est la propagande de ce qu'on a appelé pendant tout un temps les jardins du maréchal. Et on était sur cette logique-là. Et puis, en même temps, un patron de la Ligue du coin de terre qui s'appelait Francis Queguet, qui était résistant, qui refusait de publier dans le bulletin, le petit document d'information de la Ligue à l'époque, les communiqués de l'occupant allemand. On refusait de le faire. Des lieux qui étaient des lieux propices, en tout cas certaines activités illégales. Les jardins ouvriers sont souvent en périphérie. Tous les jardiniers se connaissent entre eux. C'est-à-dire quand quelqu'un d'étranger rentre dans les jardins, on le repère tout de suite. Et ce qui fait qu'assez vite, parmi les pioches, les pelles, etc., on planquait vite des fusils. Et donc on a eu ces deux aspects-là qui étaient les deux aspects de la société française. Des jardins qui étaient des jardins complètement collaborationnistes ou en tout cas attentistes, voilà, qui n'ont pas bougé. Et puis des jardins qui étaient des jardins de résistance.
Même l'histoire est dans nos jardins. C'est un abbé français, on l'a compris, un abbé du nord de la France, d'Hazebrouck, qui a inventé, imaginé ces jardins ouvriers. Figurez-vous qu'ils vont essaimer en France et puis dans le monde jusqu'à New York.
Tout l'été, la curiosité, c'est de 11h à 12h30 sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les jardins ouvriers, les jardins partagés ont été créés par un abbé à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, ils prospèrent encore. 100 ans de chlorophylle, j'aime beaucoup ce titre des jardins ouvriers aux jardins partagés. Pierre Guyot, d'ailleurs, c'est un ancien d'RTL. Vous avez passé combien de temps ici?
Quelques années, 5.
Ouais, belles années. Vous étiez à la rédac, c'est ça?
Belles années, oui, j'étais à la rédaction.
Bon, tout à fait. C'est un plaisir que vous reveniez chez vous.
Plaisir partagé.
On savoure votre voix, en tout cas, voilà. Vos récits.
Alors, ces jardins, ils ont poussé en France, on l'a bien expliqué. Et beaucoup plus tard, aux États-Unis, notamment à New York. Expliquez-nous, Pierre Guyot, dans quel contexte ?
New York invente cette nouvelle forme de jardin collectif qui est le jardin partagé, le jardin communautaire. D'ailleurs, ils appellent ça des community gardens. Mmh. On est à la toute fin des années 60, début des années 70. Et il se passe un truc à New York qui est assez méconnu, mais tout à fait étonnant, qui est que la ville est au bord de la cessation de paiement. La ville est au bord de la ruine, la crise économique est absolument terrible. Et on a toute une série de propriétaires immobiliers qui, quand on connaît les prix de l'immobilier à New York aujourd'hui, ça fait frémir, mais qui, à l'époque, préfèrent abandonner les bâtiments plutôt que de payer les charges, voire même éventuellement y mettre le feu pour toucher l'assurance. Et on se retrouve, et la mairie de New York se retrouve avec, notamment dans le sud de Manhattan, ce qu'on appelle Lower Manhattan, dans les quartiers les plus défavorisés, le Lower East Side, l'East Village, etc., avec des terrains vagues, complets, défoncés, sont les images qu'on aperçoit dans les films de Scorsese de cette période-là, dans Taxi Driver, etc. Une ville où la chaussée est défoncée, où on a régulièrement des terrains vagues abandonnés, et des habitants décident, pour lutter contre le manque d'espace vert, pour lutter également contre la criminalité, parce que ça permet de reprendre pied sur des terrains qui ont été abandonnés aux gangs et aux dealers, de créer des jardins, et c'est comme ça que ça démarre.
Et ce renouveau, il est incarné notamment par une artiste qui vit à Manhattan, elle s'appelle Liz Christie, et elle a une idée incroyable, c'est de créer des bombes de graines et de les lancer. C'est quoi, Pierre Guillaume?
Les seeds bombs. On est au début des années 70, ce sont les débuts de la période hippie, les
Flower
activistes,
power.
Exactement. Et les seeds bombs, les bombes de graines, le principe est simple, vous prenez un ballon de baudruche, plus souvent un préservatif, dans lequel vous mettez un peu de terre, des graines de fleurs, un petit peu d'eau, vous refermez tout ça, et ils allaient balancer ça par-dessus les palissades ou les grillages dans les terrains vagues, de manière à fleurir les terrains vagues, parce qu'après deux ou trois pluies, les fleurs poussaient et transformaient ces terrains vagues en champs de fleurs.
Mais ça a été fait à grande échelle, ça, Pierre Guyot ?
Oh, ça a été fait à grande échelle. C'est entré dans la légende aujourd'hui. Ouais. Ils le faisaient beaucoup à l'époque. Et
on a même appelé ça les Green Guerillas.
Ouais, ils se sont appelés eux-mêmes les Green Guerillas, les guérillas vertes, qui existent toujours. Hein. Pendant le tournage du film, je suis allé à une des assemblées générales des Green Guerillas à New York. Je tiens à vous dire qu'elles se sont sérieusement institutionnalisées, puisque l'assemblée générale avait lieu à Bryant Park dans la 42e, et c'était plus ambiant smoking avec entrée à $150 et open bar.
Tout évolue, mon pauvre monsieur.
Mais bon, voilà. Mais ça s'appelle toujours les Green Guerillas et ils font un boulot assez extraordinaire parce que ces jardins ont essaimé. Liz Christie, cette artiste, a créé le tout premier jardin communautaire du monde à l'angle de Bowery et de Houston Street. On est dans le sud de Manhattan.
Qui porte son nom, donc on peut toujours visiter aujourd'hui.
Le Liz Christie Garden. Ce sont des endroits qui sont tout à fait surprenants pour qui connaît New York, mais évidemment ne connaît pas ces jardins, et pour qui ne connaît pas New York et qui a l'image de New York, soit ce qu'on appelle les brown houses, qui sont ces maisons avec l'escalier qui monte jusqu'à l'entresol, soit les gratte-ciels. Vous avez dans le Liz Christie Garden, qui est un jardin tout en longueur, un séquoia qui fait 28 mètres de haut aujourd'hui. Et on découvre comme ça, derrière les bâtiments, des jardins assez surprenants, parfois assez petits. Hein, l'unité de mesure, c'est le lot, comme ils disent les Américains. C'est l'emprise au sol standard d'un bâtiment à New York, à peu près 200 mètres carrés. Donc il y a les petits jardins, ils font un lot. Et puis il y a des grands jardins qui font 3, 4, 5, 6, 7 lots, c'est-à-dire plusieurs milliers de mètres carrés.
Au prix du mètre carré actuel à New York, ça tient ?
Alors, ils se sont battus, ils ont eu très peur, parce que effectivement, ça a fonctionné à l'époque où la mairie était ruinée. La mairie était même ravie de ça. C'était des terrains dont il ne fallait pas s'occuper, il n'y a pas besoin de les entretenir. Ça faisait des espaces verts, ça évitait que la cocotte minute sociale n'explose, parce que ça permettait aux gosses. Et puis encore une fois, il y a eu un vrai travail d'assainissement par rapport à la délinquance, parce qu'évidemment, les dealers ne voulaient pas être enquiquinés par les jardins, les habitants, et partaient plus loin. Un des quartiers où c'est très développé, c'est ce qu'on appelle Alphabet City, dans l'est, sud-est de Manhattan. Et Alphabet City, comme son nom l'indique, ce sont un endroit où les avenues, au lieu d'être numérotées 1, 2, 3, sont avec des lettres A, B, C, D. Mm-hmm. Et il y a encore 10 ans, 15 ans, donc c'est relativement récent, la lettre A, la plus à l'ouest, c'était « all right, tout va bien ». La lettre B, c'était « beware, faites attention ». La lettre C, c'était « crime ». Et la lettre D, c'était « death », la mort.
D'accord.
Donc voilà, on était dans un endroit, et c'était pas la rigolade. C'était vraiment chaud bouillant comme ambiance. ces jardins-là ont assaini. Le problème, c'est que dans les années 90, l'économie reprend, flambée immobilière. Et d'un seul coup, beaucoup de gens veulent récupérer ces jardins. Et donc, il y a eu un vrai combat, là, pour le coup, des habitants, des militants, des associations. Ils ont trouvé un accord et on a préservé aujourd'hui environ 600 jardins communautaires à New York, à Manhattan, à Brooklyn, dans le Bronx, dans le Queens, enfin, dans les grands quartiers de la ville.
Dernière question, Pierre, ils appartiennent à qui, ces jardins, aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, pour une moitié au pouvoir public, quand les propriétaires privés abandonnaient leurs bâtiments, voire y mettaient le feu pour toucher les assurances, le truc tombait en déshérence, et puis il fallait bien que quelqu'un le récupère, et c'est la mairie qui récupérait le terrain. Et puis pour une autre moitié, pour faire simple, ça a été racheté par des fondations. On a encore régulièrement des tensions avec des terrains vagues, des gens qui s'installent dessus. Alors, c'est moins vrai à Manhattan, parce que aujourd'hui, le moindre espace coûte des millions de dollars, donc le problème est vite réglé. Mais à Brooklyn, par exemple, ou dans le Queens, j'ai tourné des fêtes organisées par les habitants dans des terrains vagues qui avaient été aménagés en jardin, en community gardens, en jardin communautaire, et que les propriétaires voulaient récupérer. Là, il y avait une vraie défense qui était organisée contre ça.
Ton jardin, tu cultiveras, ton jardin, tu raconteras. C'était avec Pierre Guillaume. Merci infiniment d'être passé au micro de la curiosité. Je rappelle que votre documentaire 100 ans de chlorophylle des jardins ouvriers au jardin partagé. Merci encore.
Vous écoutez RTL.